VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du vendredi 4 décembre 2015. Au sommaire ce soir.
Burkina Faso, le président élu se prépare à diriger sans avoir la majorité au Parlement. Rochemark Christian Kaboré s'est confié à notre envoyé spécial à Ouagadougou.
Nous sommes en train de prendre contact également avec un certain nombre de partis politiques et de députés qui sont de la même vision politique que nous.
Toujours au Burkina Faso, le Premier ministre confirme l'authenticité d'une pièce à conviction contre Djibril Bassolé. L'enregistrement audio d'une conversation avec l'Ivoirien Guillaume Soro dévoilant une stratégie en faveur du putsch au Burkina Faso.
Violence au Burundi, 3 policiers auraient trouvé la mort ce matin, plutôt cette semaine, à Bujumbura, la capitale. La nouvelle a été rapportée ce matin.
En République démocratique du Congo, le dialogue national proposé par le président Kabila agite toujours la classe politique.
Le gouvernement, tout comme le procureur général de la République, n'a menacé personne. Le procureur général de la République a rappelé tout simplement les dispositions constitutionnelles et légales qui existent.
Le député Célestin Tounda de la majorité présidentielle.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Au Burkina Faso, le président élu Rochemark Christian Kaboré continue de recevoir les félicitations de dirigeants mondiaux et de divers secteurs de la vie nationale suite à sa victoire dès le premier tour des élections le dimanche 29 novembre. Le patron du MPP doit composer avec d'autres secteurs politiques du Faso puisqu'il n'a pas la majorité absolue au Parlement. Il en a parlé dans un entretien accordé à notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Je pense que vous savez, dès le départ, nous avons été soutenus par 17 partis politiques pour l'élection présidentielle. Tout le monde n'a pas eu bonne fortune, évidemment, mais je dois noter déjà que sur ces partis qui nous soutiennent et qui soutiennent le programme du candidat, nous avons 5 députés complémentaires, ce qui nous porte à 60 les députés qui sont avec nous depuis le début de la campagne. Nous sommes en train de prendre contact également avec un certain nombre de partis politiques et de députés qui sont de la même vision politique que nous, pour qu'ensemble, nous puissions conforter cette majorité absolue qui est de 64 députés, et afin de pouvoir, non seulement faire passer nos projets et les propositions de loi, mais également de pouvoir faire avancer les décisions que nous allons prendre pour l'avenir de ce pays.
Le président élu du Burkina, Rochemark Christian Kaboré, que nous entendrons dans la deuxième partie de cette édition.
Toujours au Burkina Faso, le premier ministre de la transition, le colonel Yacouba Isaac Zida, a confirmé l'authenticité de l'enregistrement d'une conversation téléphonique attribuée à l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré et Djibril Bassolé et l'actuel chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro. Dans cet entretien, largement diffusé sur les médias sociaux, on entend deux hommes discuter d'une stratégie en faveur du récent coup d'État au Burkina Faso. Isaac Zida a confié à un confrère de la presse burkinabé qu'il s'agit bien de Bassolé et de Soro.
Au Burundi, 3 personnes portant l'uniforme des policiers chargés de la protection des institutions ont été tuées ce matin à Bujumbura, d'après un commissaire de police de la mairie de Bujumbura, Domitien Niyonkuru. La voiture d'un général de police surnommé Wakenya était la cible des malfaiteurs. La police affirme avoir saisi beaucoup d'armes, mais certains semblent en douter. Le point avec Christophe Kourounziza à Bujumbura.
Parmi les 5 assaillants qui ont attaqué à la roquette une pick-up appartenant au général de la police Christophe Ndayishimiye, chef des unités spécialisées de la police, 3 criminels en tenue des policiers de l'appui pour la protection des institutions API ont été tués par des policiers ce lundi sur la chaussée du peuple burundi à plein centre-ville. Selon le commissaire de police en mairie de Bujumbura, Domitien Niyonkuru, le général Ndayishimiye, surnommé Wakenya, n'était pas dans sa voiture et 2 assaillants ont été capturés. Niyonkuru affirme que même si ces criminels étaient en tenue policière, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont des membres de la police nationale. Plusieurs armes, dont des bombes RPG, des kalachnikovs et des grenades, ont été saisies par les autorités compétentes. Le général Ndayishimiye est un membre influent du régime de Bujumbura. Il est même parmi les policiers qui ont réprimé durement les manifestants contre le 3e mandat contesté de Pierre Nkurunziza. Il est la 5e figure du pouvoir de Bujumbura, visée par une embuscade depuis la réélection du président de la République en juillet dernier. La Ligue ITK affirme que depuis janvier de cette année jusqu'en octobre, plus de 500 personnes ont été tuées dans les violences au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Coalition djihadiste Al-Mourabitoun rallie Al-Qaïda au Maghreb islamique pour faire alliance contre la France. C'est du moins ce qu'affirme le chef d'ACMI dans un message audio. Les deux groupes ont revendiqué conjointement la prise d'otage de novembre à Bamako, au Mali.
Un ex-colonel inculpé en Mauritanie, Omar Ould Bebakar, est accusé d'incitation à la haine ethnique et raciale. C'est ce que rapporte l'AFP citant son avocat. On lui reproche des déclarations le jour de l'indépendance, le 28 novembre, considérant cet anniversaire comme terni par la pendaison de 28 soldats négro-mauritaniens 25 ans auparavant.
Dans le sud du Nigeria, l'élection du gouverneur de l'État de Bayelsa se déroulera demain. Le scrutin s'était déroulé en avril dans l'ensemble du Nigeria, mais le vote avait été décalé dans l'État de Bayelsa. Élection sous tension, puisque 14 000 policiers ont été déployés en prévision d'éventuelles violences.
En Égypte, au moins 16 personnes ont péri dans une attaque au cocktail Molotov contre une discothèque du Caire, Idriss Fall.
Après le jet de cocktail Molotov, selon le ministère de l'Intérieur, 16 personnes ont été tuées et 3 blessées dans l'incendie qui s'est déclaré dans une boîte de nuit du quartier Agouzar, dans le centre du Caire. Pour le moment, les autorités privilégient la thèse d'un différend personnel. Selon des témoins, il y avait des divergences entre des employés et d'autres personnes qui ont lancé les bouteilles incendiaires vers la discothèque Al-Sayyad. Certains journaux affirment que les assaillants, dont le nombre n'est pas précisé, étaient masqués et en moto. Une vaste chasse à l'homme est lancée pour les retrouver. Cette attaque est survenue peu avant l'aube ce vendredi, alors que le pays subit des violences des groupes extrémistes qui ciblent surtout les forces de sécurité dans le Nord Sinaï et dans la capitale. La dernière attaque revendiquée par le groupe État islamique en Égypte a eu lieu samedi. 4 policiers ont été tués au sud du Caire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la Chine offre une aide au développement à l'Afrique de 60 milliards de dollars. Une annonce faite ce vendredi par le président Xi Jinping au Forum sur la coopération Chine-Afrique à Johannesburg. On fait le point avec Nathalie Barche.
Xi Jinping a déclaré que l'aide comprend 5 milliards de dollars en prêts à taux zéro et 35 milliards en financement préférentiel, prêts de crédit à l'exportation et prêts concessionnels. Il a souligné que la Chine vise principalement à développer les infrastructures et améliorer l'agriculture en Afrique. Le président chinois a également promis la non-ingérence dans la politique régionale en disant « La Chine croit fermement que l'Afrique appartient au peuple africain et les problèmes africains doivent être réglés par les peuples africains ». Le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État zimbabwéen Robert Mugabe, a salué les propos du président chinois, estimant qu'il était en train de faire ce que l'Afrique aurait espéré de la part de ses anciens colonisateurs. Au cours des dernières années, la Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de l'Afrique, avec un flux bidirectionnel dépassant 220 milliards de dollars en 2014. Lorsque l'économie chinoise a ralenti cette année, certains pays africains ont été durement touchés par la baisse de la demande pour les produits et la réduction des investissements chinois.
Sachez aussi que Pékin compte installer une base navale à Djibouti qui sera opérationnelle d'ici fin 2017.
Au Libéria, les autorités annoncent que les deux derniers cas connus d'Ebola ont été déclarés guéris. La fin de l'épidémie a déjà été déclarée par 2 fois dans ce pays.
Le secrétaire d'État américain John Kerry dit croire en la possibilité d'une coopération entre le gouvernement syrien et les forces rebelles contre le groupe État islamique, même si Bachar el-Assad est encore au pouvoir. Pour ce faire, a précisé M. Kerry, les groupes de l'opposition doivent être mis en confiance quant à une solution éventuelle sur l'avenir du leader syrien.
En Allemagne, après le Conseil des ministres plus tôt cette semaine, c'est aujourd'hui le tour du Parlement de donner son feu vert à l'envoi de forces militaires pour lutter contre Daesh en Syrie. À Berlin, le Bundestag a voté 445 contre 146 pour le déploiement d'un contingent d'environ 1200 soldats accompagnés d'avions de reconnaissance, d'une frégate et d'un avion de ravitaillement en carburant. C'est en réponse à l'appel du président François Hollande après les attentats et en fait 130 morts et 350 blessés à Paris le 13 novembre dernier.
Et parlant de François Hollande, il a annoncé ce vendredi au cours d'une visite surprise sur le porte-avions français Charles de Gaulle, actuellement en Méditerranée orientale, que ce bâtiment sera déployé dans quelques jours dans le Golfe. Et sur le terrain, en Syrie, au moins 56 civils, dont 16 enfants, ont été tués ce vendredi par des raids et bombardements du régime dans l'est de Damas, ainsi que dans le centre et le sud du pays.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
MTN, le géant sud-africain des télécommunications, a jusqu'au 31 décembre pour régler une amende de 3,9 milliards de dollars à l'État nigérian, comme le lui a signifié l'autorité des communications du Nigeria, la NCC. Cette pénalité sanctionne la multinationale numéro 1 du téléphone mobile au Nigeria pour non-respect d'une injonction de sécurité. Désactiver dans un délai d'une semaine toutes les cartes SIM anonymes. Cette mesure devait permettre aux autorités nigérianes une meilleure traçabilité des utilisateurs dans un pays miné par la criminalité et les exactions de Boko Haram. MTN a de son côté signalé que son PDG va réengager et de toute urgence des négociations avec les autorités nigérianes. MTN, présent dans 22 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, compte près de 63 millions d'abonnés au Nigeria, qui est son premier marché. Le cours en bourse de MTN a chuté de près de 30% sur le marché de Johannesburg depuis le début de l'affaire, le 23 octobre, et entraîné la démission de son PDG début novembre. Tapera Industries est une start-up zambienne créée par Mutoba Ngoma, 30 ans. La société produit du biocarburant à partir d'huile alimentaire recyclée. Ingénieur aéronautique de formation, Mutoba Ngoma a étudié au Kenya et en Angleterre. Rentré au pays, il est convaincu du potentiel des énergies renouvelables. Après avoir regardé un reportage sur le Brésil, il crée Tapera en 2006 avec en tête l'idée d'augmenter la production de carburant durable en Zambie et ainsi créer de nouvelles opportunités d'emploi.
C'était la Minute Éco. Merci Anastasie.
Place à l'actualité sportive avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir.
En Afrique, Cannes U23, la Coupe d'Afrique des Nations.
Des moins de 23 ans, oui. Les Sénégalais, pays organisateur, hein, déjà qualifiés, rencontrent en ce moment même la Zambie déjà éliminée. Les Lions de la Teranga ont ouvert le score, 1-0, grâce à un but dès la 5e minute de Mohamed Diallo. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Afrique du Sud doit absolument l'emporter pour espérer échipper la deuxième place à la Tunisie.
Encore dans l'actualité, le scandale à la FIFA.
Juan Angel Naput et Alfredo Awit, deux vice-présidents de la FIFA, interpellés jeudi à Zurich à la demande de la justice américaine. Ils ont été suspendus 90 jours aujourd'hui par la FIFA. Le Paraguayen Naput préside la CONMEBOL, la Confédération Sud-Africaine. Quant à Awit, président de la Fédération Hondurienne. Hein. Il dirige aussi la CONCACAF, Confédération d'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes.
Je t'attendais à ce carrefour, Nicolas. Parlons de gymnastique.
Le Bénin a abrité la première formation de gymnastique de la zone 2. Une semaine pour apprendre l'aérobic gymnastique. Les précisions avec Élisée Oumpatier.
6 pays ont pris part à cette formation, le Congo, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la République centrafricaine et le pays hôte, le Bénin. Pendant 8 jours, les aérobiques ont appris les éléments fondamentaux de la pratique de cette discipline. Une initiative de la Fédération béninoise de gymnastique. Son président, Léonide Baguidi, explique.
C'est la première fois qu'une académie dans la zone 2 a regroupé autant de pays. Cela montre l'intérêt que les différentes fédérations de gymnastique porte à la gymnastique aérobique dans la zone. L'académie, quant à elle, vous soumet à une épreuve écrite et une épreuve orale. Et c'est ceux qui passent entre les mailles de ces filets qui obtiennent le diplôme niveau 1 de gymnastique aérobique. Donc, ils deviennent des entraîneurs internationaux.
Précisons que cette formation a été assurée par 3 experts venus de l'Algérie, de la France et de la Slovaquie. Boycon, Élisée Rumpati, VOA Afrique.
Quelques résultats de la NBA, basket professionnel nord-américain.
Les Spurs ont battu Memphis Grizzlies 103-83. Dans l'autre affiche de la soirée, Miami est venu à bout d'Oklahoma City 97-95. Et puis un autre résultat, les Pacers sont tombés de haut à Portland. Défaite 111-123, c'est leur première défaite en 6 matchs.
Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Burkina Faso.
Un pays qui vient d'élire un président démocratiquement, environ une année après la chute du régime de Blaise Compaoré. Dans une interview accordée à notre envoyé spécial Bagassi Koura, le président élu Rochma-Christian Kabore parle des défis qui l'attendent.
Vous savez, les priorités aujourd'hui sont nombreuses. Nous devons d'abord remettre le Burkina Faso au travail. Nous devons faire en sorte que l'économie reprenne, parce qu'on ne peut pas parler de travail pour les jeunes, pour les femmes, si l'économie ne marche pas. Et nous devons enfin aussi travailler en même temps à satisfaire les besoins fondamentaux de nos populations, qui sont des problèmes d'école, qui sont des problèmes de santé, qui sont également des questions qui sont relatives à l'eau potable, etc., etc. Alors, c'est pour dire que les chantiers sont nombreux. La jeunesse s'est beaucoup battue et les femmes également au moment de l'insurrection. Nous avons un devoir de faire en sorte que cette jeunesse retrouve du travail. Cette jeunesse participe au développement de notre pays. Et c'est l'engagement que nous avons pris et nous allons nous battre justement pour que l'ensemble de ces préoccupations puissent trouver des solutions.
Qu'est-ce que vous comptez faire pour relancer les relations avec la Côte d'Ivoire?
Je pense que les relations sont toujours existantes. Il n'y a pas d'arrêt de relations avec la Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit, nous avons tout à fait intérêt à ce que nous puissions rétablir la confiance entre nos deux pays et rétablir des bonnes relations que nous connaissons entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Non seulement parce que nous sommes voisins, mais également parce qu'il y a plusieurs millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc nous n'avons même pas le choix, quel que soit le péripétie de l'histoire, de ne pas garder de très bonnes relations entre nos deux pays.
Alors vous avez parlé de réconciliation dans votre discours. Est-ce que c'est une main tendue aussi vers le CDP?
La main, vous savez, nous avons dit simplement ceci. Il faut la réconciliation avec notre histoire. Mais la réconciliation avec notre histoire passe par aussi la vérité, par la justice. Et nous n'avons pas de problème au-delà des questions politiques avec le Congrès pour la démocratie et le progrès, mais nous disons qu'il faut qu'il fasse amende honorable sur les actes et sur les idées qu'ils ont développées à un temps donné avant de pouvoir se réconcilier avec le peuple qu'il avait dans son ensemble. Et c'est pour cela que nous avons dit réconciliation, oui, mais vérité et justice nécessaires.
Le président élu du Burkina, Rochma-Christian Kabore.
Et nous restons au Burkina Faso, où les paysans libèrent leur génie créateur pour lutter contre les effets des changements climatiques. Dans ce pays où l'agriculture occupe près de 80% de l'économie et de la population, les terres arides et desséchées sont le spectacle quotidien. Mais la révolte est venue de Waïgouya, où de nouvelles techniques redonnent de l'espoir aux braves agriculteurs. Le reportage de Issa Napon, présenté par Arzuma Compaoré.
Nous sommes ici à Waïgouya, capitale de la province du Yatenga, à 180 km au nord de Ouagadougou. Des poches de sécheresse inédites et des pluies inégalement réparties ont profondément affecté les populations. Mais elles se sont depuis quelques années appropriées de nouvelles techniques pour restaurer les terres dégradées. C'est l'exemple du village de Kombri, 30 km plus au loin, où les changements s'opèrent grâce à la technique dite du Zaï et une nouvelle approche baptisée demi-lune. Inoussa Sigué, conservateur des eaux et sols, nous explique.
Cette technique, on les fait ça sur les clairières. Sur les clairières, là où l'eau coule et l'eau n'arrête pas. Donc cette technique permet d'augmenter le rendement agricole.
À l'origine de ces nouvelles techniques, une organisation associative qui fait son bonhomme de chemin depuis 1967, date de sa création, la Fédération Nationale des Groupements NAM. Son président, Joël Ouédraogo.
Et les groupements NAM ont été créés pour lutter contre la faim et contre la sécheresse, et partant contre l'exode rural. Donc pour pouvoir lutter contre la faim, il faut pouvoir produire. Pour pouvoir produire, il faut avoir des terres arables. Et vu que c'est une zone aride au niveau du nord ici, c'est une zone très très aride, et il fallait trouver des techniques pour pouvoir régénérer les terres, les nourrir, les chouchouter, comme on le dit, et afin de pouvoir produire et lutter contre la faim et l'exode rural.
Pour contrer la raréfaction des pluies, les paysans ont aussi appris à construire des bassins d'irrigation complémentaires.
Ces bassins d'irrigation de complément servent à stocker l'eau. Et un bout de temps, s'il y a un manque de pas de sécheresse, on utilise ça pour arroser le maïs dans le sac que vous voyez.
Avec de la volonté, du courage et de l'abnégation, les paysans burkinabés trouvent les moyens de contourner les retombées néfastes des changements climatiques. Il reste que la conjugaison des efforts reste insuffisante pour implémenter et vulgariser les nouvelles approches sans un soutien fort de l'État.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Kudugu, Waïgouya et Fada.
Au Rwanda, l'Union européenne estime qu'une réforme conçue dans l'intérêt d'un seul individu perd en crédibilité. Une révision constitutionnelle adoptée par le Parlement et attendant d'être soumise à référendum devrait permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. John Lennon a joint au téléphone Jean-Claude Villam, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il parle tout d'abord de la position de l'Union européenne sur la question.
Écoutez, si je lis la déclaration donc d'hier de la haute représentante de la politique de sécurité et des affaires étrangères, je le trouve quand même, assez accommodant dans le sens où la communication dit « bon, c'est quand même préférable s'il y a une alternance ». Mais elle termine de communiquer en disant que l'Union européenne reste engagée en faveur de la paix et de la prospérité dans la région des Grands Lacs et souhaite un dialogue continu avec les autorités rwandaises. Donc c'est évidemment très différent par rapport au message le même jour, le jour précédent, de Samantha Power, donc l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies.
Voilà. Le Rwanda a ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Est-ce que cette réforme ne va pas fragiliser le principe même de changement démocratique de gouvernement?
Oui, c'est ce qui est mis dans le communiqué de la haute représentante, mais par rapport à la position américaine, par exemple, ce qui est assez surprenant, c'est que la position américaine est, par exemple, beaucoup plus ferme à l'égard de la manière dont le Rwanda, présente les choses. Quoi.
Déjà, pourquoi l'Union européenne et même les États-Unis s'intéressent-ils si particulièrement au Rwanda? On a vu des pays en Afrique qui ont procédé de la même manière et où ces nations n'ont rien dit.
Côté américain, là, je ne sais pas très bien juger. Je remarque simplement que ça fait au moins depuis 3 fois que les États-Unis insistent assez lourdement sur le problème posé par ce référendum et cette nouvelle candidature de Paul Kagame qui va bien entendu emporter le référendum. Quant à l'Union européenne, elle a évidemment beaucoup d'autres chats à fouetter pour le moment. Il y a les migrants, il y a les attentats terroristes, c'est tout ça, quoi. Donc elle n'a probablement pas envie de se charger de nouveau de problèmes avec le Rwanda.
Alors, est-ce que finalement il ne s'agit pas là d'une ingérence dans les affaires d'un État qui, soit dit en passant, est quand même indépendant?
On peut le prendre comme ça, mais on peut très bien signifier à un État qui ne respecte pas les principes d'alternance, on peut quand même le signifier.
On écoutait Jean-Claude Villam, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain en Belgique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En République démocratique du Congo, le dialogue national proposé par le président Kabila agite toujours la classe politique. Les opposants, qui le soupçonnent de vouloir rester au pouvoir, brandissent la menace des manifestations de rue. En réponse, le procureur de la République a haussé le ton contre tous ceux qui veulent semer le désordre. Idriss Fall a recueilli la réaction du député Célestin Tounda de la majorité présidentielle à Kinshasa.
Le gouvernement, tout comme le procureur général de la République, n'a menacé personne. Le procureur général de la République a rappelé tout simplement les dispositions constitutionnelles et légales qui existent. Parce que la plupart des temps, les gens ont tendance à oublier qu'il y a des lois dans ce pays. Et pour le moment, il n'y a pas de raison pour que les gens se comportent dans l'anarchie ou puissent organiser des manifestations ou des mouvements sans autorisation. Donc il n'y a pas de menace du tout.
Est-ce que vous envisagez durcir les lois ?
Les lois qui existent sont suffisantes pour orienter les manifestations, les cérémonies ou je ne sais pas, toutes les activités politiques. Mais s'il y a un député qui veut introduire une proposition de loi, ça, dans toute démocratie, c'est possible. A priori, le gouvernement n'a pas l'intention de durcir les conditions de meeting ou de réunion ou de manifestation. Mais s'il y a une proposition de loi qui vient de la part d'un député ou de deux députés, ça, c'est comme en France, c'est comme aux États-Unis, c'est dans toute démocratie.
Les opposants parlent de l'article 64 de la Constitution.
L'article 64 ne permet à personne de manifester. L'article 64 ne dit pas ça. Justement, les gens, ils ont l'impression que le mandat du pouvoir actuel est terminé. Le mandat du pouvoir actuel n'est pas terminé. Et toutes les lois en vigueur, que ce soit la Constitution, que ce soit les lois, sont d'application. Et c'est lui qui viole les lois, qui viole les dispositions constitutionnelles, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Qu'est-ce que vient faire l'article 64 ici ? L'article 64 n'a rien à voir avec les manifestations de rue à n'importe quel moment et dans l'anarchie.
Tout ceci, c'est la suite parce que l'opposition dit non au dialogue national.
Le dialogue, c'est un dialogue du peuple. Et c'est le peuple congolais qui va aller en dialogue. Aussi, il y a quelques personnes de l'opposition qui ne veulent pas aller. C'est ça aussi la démocratie. Je ne sais pas si en Europe ou aux États-Unis, il y a un président de la République qui est à 99%. Et on est déjà à la 12e année.
Sur l'opposition soupçonne M. Kabila de vouloir rester au pouvoir à la fin de son mandat, au-delà des délais constitutionnels.
Monsieur le journaliste, dans quel pays on a déjà vu on demande à tout de l'État, il sort à la fin de son mandat, s'il va rester ou pas. L'année prochaine, il y a beaucoup de présidents qui vont partir. En 2017, il y en aura encore beaucoup qui vont partir. Mais à personne, on pose la question de savoir s'il va partir ou pas. Mais ces opposants-là qui attendent la fin du mandat, qui attendent les élections qui vont venir, ils sauront si le président va partir ou pas.
Le député Célestin Tounda de la majorité présidentielle à Kinshasa.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi, nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. On remercie Joselle Morissin qui a assuré la mise en onde ce soir, assisté de Sidrac Franklin. Présentation chez Robin Dorcil et Morgane Guériac.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets ou posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.